Seigneur, nous voulons te demander ce matin de t'approcher de nous pour ouvrir nos yeux, ouvrir, Seigneur, nos cœurs, nos oreilles, pour que, Seigneur, nous puissions voir et entendre ta parole, pour que, Seigneur, le Seigneur Jésus soit devant nous, dans toute sa gloire, et que, Seigneur, à la fin, tu peux changer, Seigneur, nos vies, que, Seigneur, par ton esprit, nous te demandons d'œuvrer en nous, Seigneur, pour que nous soyons plus semblables à lui. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, l'épître de Tite, ou à Tite, chapitre 2. On va surtout regarder les versets 11 à 15 ce matin, mais on va lire tout le chapitre. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, se montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Voilà, alors on va regarder surtout ces versets 11 à 15, et c'est les encouragements à la vie sainte, à une vie digne de l'Évangile. Et moi, je pense aussi dans l'école de la grâce, parce qu'il parle ici de la grâce. Le 15 septembre l'année passée, ma fille s'est mariée, alors c'était un jour de joie pour nous, bien sûr. Elle est chrétienne, elle s'est mariée avec un chrétien. Et voilà, quand on est arrivé à l'église, pour moi c'est la première fille qui se marie, alors tous les gens nous regardaient. Mais en fait, ils ne me regardaient pas, ils regardaient à ma fille. Mais qu'est-ce qu'on attend à voir le jour du mariage, hein? On attend que la fille soit aussi belle qu'elle puisse être. Qu'elle se prépare pour son mari. Et qu'elle se rend belle pour lui. Aussi belle que possible. Et qu'est-ce qu'on penserait si elle arrivait, elle était, voilà, mal habillée, les cheveux partout, et pas très bien soignée, hein? Bon, d'abord, on va dire pourquoi il l'a choisie, mais aussi, ça porte honte, n'est-ce pas, à son mari. Parce que, est-ce qu'il l'aime? Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Alors, on sait que le mariage, on se prépare, n'est-ce pas? Et dans le livre de Tite, ici, il parle beaucoup de bonnes œuvres. Hein, c'est là, ça revient encore et encore dans ce livre. Il parle de s'appliquer à pratiquer des bonnes œuvres, à être zélé pour les bonnes œuvres, à apprendre à pratiquer les bonnes œuvres. Et partout dans ce livre, il parle de cela. Et il a cette phrase en verset 10, « Fais honorer la doctrine de Christ ». Et on a discuté quel mot, parce que en anglais, le mot c'est « embellir ». Et apparemment, dans la traduction Darby, c'est orner, c'est ça, orner. Mais on a dit, bon, les gens n'utilisent pas ce mot-là. Mais c'est cette idée que on se rend belle pour que les gens pensent bien de ce que nous croyons. Hein, c'est ça l'idée ici, de faire honorer la saine doctrine de Dieu. Et ça, c'est l'idée qui vient. Et je me rappelle même avant d'être chrétien, et quand j'ai connu Suzanne, moi j'étais pas chrétien, au début je me suis bien moqué d'elle, hein, j'étais vraiment horrible au travail, et c'était 3 ans après Chérie qu'on s'est marié, voilà, juste pour corriger, mais, et moi quand je l'ai vue se convertir, ça m'a pas du tout plu, hein. Avant elle venait boire avec nous, après bon, elle voulait plus se comporter comme avant. Et je me rappelle d'avoir dit, alors tu vas rester pour dire notre père ici au travail, pendant que nous on allait au pub au coin. Mais bon, voilà. Mais c'est après son témoignage et les choses où elle a dit les choses complètement contraires aux autres au travail, hein, que j'ai commencé à réfléchir. Je suis allé en réunion chrétienne, j'ai entendu l'évangile et je me suis converti. Et c'était, on dit, 3 ans après, en fait, on s'est marié et qu'elle... Voilà, c'est une belle histoire, ça fait plus que 30 ans maintenant. Et merci Seigneur pour ma femme, et surtout pour son œuvre en nous. Mais on va ici, je me rappelle, avant d'être chrétien, j'avais un ami avec qui on discutait souvent, et on était là, on buvait ensemble. Et un jour, il a parlé des gens dans la famille qui étaient chrétiens. Hein, moi, je ne les connaissais pas, on n'avait rien à faire avec des chrétiens du tout. Mais il a dit, vous savez, c'est incroyable. C'est les gens là dans leur église, ils s'entraident. Il a dit, si quelqu'un tombe en panne en voiture, il sait que quelqu'un va venir les aider. S'il y a un problème à la maison, souvent ils s'entraident. Et même quand on voulait rien faire avec leur doctrine, avec ceux qui croyaient, pour nous quand même, ça faisait, c'était impressionnant. Waouh, ces gens quand même, ils s'entraident, ils s'aiment, c'est beau quand même. Malgré tout ce qu'on connaissait, ou on voulait pas connaître de ceux qui croyaient, leur témoignage nous a touchés. Ah, moi, j'ai rien compris de l'évangile à l'époque, mais ça, c'est resté dans ma tête, hein. 32 ans après, je me rappelle de ce qu'il a dit sur les gens dans sa famille. Alors, est-ce que votre vie, rendre belle, bon, il faut pas mal comprendre, faut pas me comprendre ça, parce qu'on ne peut pas rendre plus belle dans un sens l'évangile. Mais est-ce que votre vie fait honorer l'évangile? Et dans le verset 11 à 14, il nous donne les raisons pourquoi. Hein, il nous donne les encouragements pour vivre cette vie sainte qui fait honorer l'évangile. Et c'est ce qu'on va voir. Il a dit, verset 1 à 10, vous avez vu qu'on a parlé à tous les gens de l'Église. Alors, on est tous concernés, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, les patrons, les ouvriers. Tout le monde est dedans. Comment ils doivent vivre pour faire honorer l'Évangile? Et après, il arrive à verset 11 à 14 et commence avec le mot « car la grâce de Dieu ». Hein, maintenant, il donne les raisons. Pourquoi je dois vivre, les encouragements pour vivre une telle vie. Alors, ces versets divisent entre le passé, le présent et le futur. C'est très, très simple, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que je veux regarder ces versets. Regardez la grâce de Dieu dans le passé, regardez la puissance de Dieu dans le présent et regardez la gloire de Dieu dans l'avenir. C'est ça qui va nous encourager à vivre cette vie pour le Seigneur. Regardez la grâce de Dieu dans le passé. Alors, c'est une phrase assez longue à partir de verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Je crois que, en fait, en grec, ça continue. Mais, on vit entre deux apparences devenues. Hein? Derrière nous, nous avons la manifestation de la grâce de Dieu qui, et en anglais, la traduction est différente, c'est plus littéral, qui nous a apporté le salut. Bon, l'idée est toujours la source de salut. C'est l'idée que la grâce de Dieu est manifestée. Nous apportons le salut. Et nous vivons entre la venue de Jésus quand il nous a apporté le salut et la venue de Jésus quand il vient dans la gloire. Et nous vivons entre ces deux apparences, ces deux manifestations, et entre ces deux-là, on va vers les victoires, n'est-ce pas? On est en train d'avancer. Mais ça, c'est l'époque dans laquelle nous vivons. Et il dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Il y a un moment dans l'histoire, un moment où c'est comme si Dieu a ouvert les rideaux et la lumière a brillé dans ce monde. Jésus-Christ est venu source de salut. Et il nous est venu, il a apporté la grâce qui sauve. C'est intéressant parce que il dit c'est Jésus-Christ qui est venu. Mais il n'a pas dit que Jésus-Christ, source de salut pour tous les hommes, a été manifesté. Mais il a dit la grâce de Dieu. C'est une question. Pourquoi est-ce que il a dit la grâce? Hein, c'est une bonne question. Parce qu'il parle de Jésus, c'est clair, hein, afin de nous racheter de toute iniquité et se faire un peuple qui lui appartienne, il dit en verset 14. La parole était faite chair, est devenue chair, est venue habiter parmi nous, et après est allée à la croix pour mourir, pour prendre sur lui nos péchés, et pour porter nos iniquités et subir la punition de Dieu, la colère de Dieu contre les péchés. La grâce de Dieu. Mais il utilise la grâce parce que il faut méditer sur ce mot-là, n'est-ce pas? Il faut méditer sur cette parole pour vraiment comprendre ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. On a, sans doute, vous avez entendu ici beaucoup d'explications pour le mot grâce, mais à la source de toutes ces idées, c'est que c'est la bonté de Dieu, l'amour de Dieu qui est montré envers les hommes et c'est sans aucun mérite de notre part. Tout est affaire avec Dieu et rien n'est affaire avec moi. C'est lui. Imaginez que on reçoit une lettre et un bon ami est décédé et il nous a laissé une maison. Alors on dit, j'ai rien fait pour mériter ça. Mais il me laisse une maison. Ça serait formidable, n'est-ce pas? Mais imaginez que la lettre arrive, en fait, c'est quelqu'un dans la rue où j'habite qui est décédé. Et bon, je le connais un peu. Je leur ai dit bonjour plusieurs fois, mais c'est tout. Et il me laisse la maison parce qu'il n'y a pas de famille, il n'y a personne. Il me laisse la maison. Incroyable! Quelle histoire! Mais ici, c'est beaucoup plus grand que ça. Parce que Dieu laisse la maison à ses ennemis. C'est ça que la Bible dit. J'étais pas ami du tout. J'étais son ennemi dans mon péché au moment où Dieu Christ est mort pour moi. Apparemment, le mot grâce le Nouveau Testament, quand ça parlait de grâce, c'est toujours un don qui était donné à quelqu'un qu'on connaissait bien, qu'on aimait bien, un ami. Apparemment, c'était l'utilisation de ce mot en grec. Faut vérifier avec Wolfgang après, il enseigne le grec. Alors, il va me dire si c'est vrai. Mais, dans le Nouveau Testament, ça a tout changé, n'est-ce pas? Parce que voilà le mot grâce, qui est utilisé pas pour donner quelque chose à mes amis, mais pour donner gratuitement, librement, quelque chose à mes ennemis. Quelle grâce! Quel mot a utilisé? On nous parlait de ça. Et la Bible dit, n'est-ce pas, que dans le 2 Corinthiens, chapitre 9, « Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. » Merveilleux. Alors, de méditer sur cette grâce, c'est très important en tant que chrétien. Parce que c'est en méditant, en pensant à cette grâce, que Dieu va changer ma vie. Hein? C'est en pensant à Jésus-Christ, à mettre Jésus-Christ au centre, que Dieu va m'encourager à vouloir être semblable à lui et à être une nouvelle personne en Christ. Mais il y a même plus, hein, parce qu'avec Dieu, le don de la grâce est venu avec celui qui le donne. Imaginez un enfant et son père est dans l'armée. Il part à Afghanistan ou quelque part. Bon, c'est les Anglais qui parlent de ça, parce que c'est les Anglais. On en a toujours là-bas, je crois, alors c'est une grande chose, n'est-ce pas, pour d'avoir un père qui part dans une situation pareille. Mais le père veut faire quelque chose pour son enfant, pour son anniversaire. Alors il envoie un billet d'entrée pour aller en vacances à Disneyland Paris. Alors, il faut comprendre qu'en Angleterre, les enfants vont tous aller à Paris, à Disneyland. Peut-être ici, ça vous intéresse pas. Mais en Angleterre, ça c'est, wow! Disneyland! Imaginez, ça arrive, il ouvre l'enveloppe, voilà, les vacances à Disneyland. Mais imaginez que quelqu'un tape à la porte, il ouvre la porte, et c'est pas le facteur là avec l'enveloppe, mais c'est son père qui est rentré pour l'amener à Disneyland pour les vacances. Mais ça change tout, n'est-ce pas? Et avec Dieu, ce n'est pas qu'il nous envoie par courrier sa grâce, c'est pas que nous recevons quelque chose de lui, mais lui, il vient avec. Celui qui donne vient toujours avec ses dons, n'est-ce pas? Et c'est ça qui rend le don merveilleux. Le ciel, oui, mais c'est quoi? C'est le ciel avec Jésus-Christ. C'est le moment où je serai semblable à lui, que je vais avec lui. Alors c'est pas ses dons qui sont si importants, mais c'est celui qui donne ces choses qui compte. Quelle grâce! Et il faut vraiment faire tout dans votre vie, faire tout pour méditer et pour rendre cette idée plus grand possible, le plus grand que possible. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie quotidienne pour passer du temps avec le Seigneur? Est-ce que vous avez ces moments de vraiment méditer la parole, de passer les moments à réfléchir, pas simplement courir à travers quelques versets comme une manière superstitieuse pour aller au travail, non, mais pour méditer sur ce que Dieu a fait pour nous. Parce que cette grâce est absolument incroyable. C'est merveilleux. C'est quelque chose qui nous dépasse, n'est-ce pas? Et moi, je vais passer mon temps à saisir cette grâce. Parce qu'il a parlé de comment vivre, et maintenant il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alors, il faut prendre dans la vie des décisions. Hein? Si on ne prend pas les décisions, on ne fait rien. Décidez. Je ne sais pas où vous en êtes à ce moment dans votre vie spirituelle. Mais prends la décision de passer du temps avec le Seigneur et essayez de cultiver cette idée de la grâce de Dieu qui a été montrée à ses ennemis, s'approcher de lui. La Bible dit, n'est-ce pas, il s'approchera de vous. Mais deuxièmement, on voit regarder la puissance de Dieu dans le présent. On a regardé la grâce de Dieu dans le passé. Mais ici, il parle de la puissance de Dieu dans le présent par sa grâce. Et il dit ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et premièrement, il parle de la grâce qui nous enseigne. Et quand j'ai regardé ça au début, je me suis presque trompé de sens ici. Parce que le mot enseigne, c'est pas le mot qu'on utilise normalement pour enseigner. Mais c'est le mot qu'on utilise dans Hébreux chapitre 12, le verset 9 à 11. Vous le connaissez peut-être, Hébreux 12, 9 à 11. Et il l'utilise plusieurs fois. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, c'est ce mot-là, et que nous les avons respectés, Ne devons-nous pas, à bien forte raison, nous soumettre au Père des Esprits pour avoir la vie? Nos pères qui nous châtiaient, c'est encore le mot, pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie, le même mot, pour nous, pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment, c'est encore le même mot, semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés, et c'est le même mot encore là, un fruit paisible de justice. Alors ces mots qui, moi quand j'ai toujours lu ces versets, le fait qu'il dit un sujet de tristesse m'a fait toujours penser à mon père qui me met sur au-dessus de son genou pour me donner un bon coup de fessée. Et alors j'avais un sentiment un peu négatif de l'idée, mais ce n'est pas du tout ça. Hein. C'est le père qui aime son enfant et qui veut diriger son enfant dans les bonnes voies. Hein. Ce n'est pas simplement donner les fessées. C'est beaucoup plus. C'est toute l'instruction, c'est tout l'amour qu'un père montre à son enfant pour qu'il suive la bonne voie. Et c'est ça l'idée de ça. Hein. C'est un père qui élève son enfant comme il faut, qui forme son enfant, qui est là pour aimer son enfant et pour diriger. On a je pense qu'on connaît le mot dans Galates, où il dit que la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ. Hein, on a cette idée, celui qui nous amène, et il parle de la loi, mais c'est pas souvent on pense de la grâce. Qui fait ça, hein? La grâce qui fait ça. On a souvent l'idée que la grâce c'est quelque chose où, voilà, Dieu donne le salut en Jésus-Christ et voilà, je suis sauvé maintenant, ça y est, je vis ma vie, mais j'ai l'assurance du salut, ça va, c'est bien. Apparemment aux États-Unis, c'est un vrai problème dans beaucoup d'églises là-bas. Les gens se donnent à Jésus, après ils vivent n'importe comment. Mais ici nous voyons la grâce de Dieu dans la Bible, qui n'est pas quelque chose qui arrive simplement dans le passé comme ça, mais aujourd'hui, la puissance qui œuvre en nous pour nous transformer, pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. Et c'est ça qui est merveilleux. Et ce n'est pas que Dieu le fait de loin, c'est qu'il est là, en nous, en train de œuvrer, de nous changer. Et c'est pas comme l'enfant qui fait un cours par correspondance. La dernière année en France, notre fils aîné a fait le cours par correspondance. Voilà. Il avait ses livres, et son père, qui est bête, qui ne rappelle pas de ses cours à l'école, était inutile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'enfant, avec ses livres, voilà, il doit tout faire pour comprendre et pour avancer. Ce n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Hein? L'Esprit de Dieu est là avec nous. Jésus l'a dit en Jean 14, 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » C'est là le mot qu'il a utilisé. Je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas sans père. Hein? Jésus lui-même, par son esprit, est venu pour œuvrer en nous. Et quand on lit Éphésiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, nous voyons la puissance de Dieu qui est là pour nous transformer. C'est vraiment très frappant. Je vous encourage de lire ces chapitres en rentrant aujourd'hui, parce que c'est la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui aujourd'hui est à l'œuvre dans nos cœurs pour nous transformer, pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. Voilà la grâce de Dieu à l'œuvre en nous. Et on voit, alors là, c'est ce qu'il fait, mais pourquoi est-ce qu'il le fait? Là, on voit dans les après, dans ces versets, l'œuvre de la grâce. Hein? Il nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alors, il y a deux parties, comme toujours, hein, la partie négative et la partie positive. En vous dépouillant du vieil homme, comme on lit en Éphésiens 4, et en vous revêtant de l'homme nouveau, en Éphésiens 4 aussi. Alors, il nous appelle à renier, à renoncer, à dire non à l'impiété et les convoitises mondaines. Et c'est l'idée, n'est-ce pas, de la repentance, parce que c'est quelque chose qui est arrivé dans le passé. Je l'ai fait, j'ai dit non. Au moment de ma conversion, j'ai renoncé à vivre dans l'impiété, mais c'est quelque chose qui continue jour après jour depuis. Hein? La repentance. Nous vivons une vie de repentance, toujours renonçant à ces choses. C'est ça l'idée de façon que le verbe est dit apparemment dans le grec. L'impiété, quelque chose m'a aidé avec ce mot, c'est l'idée de vivre sans loi, hein, l'impiété, de ne pas vivre sous l'autorité de Dieu. On pense souvent du péché, des choses, des transgressions de la loi, n'est-ce pas? Mais il y a autre chose, il y a aussi cette idée de vivre sans l'autorité de Dieu. Et quand on pense à ça, moi je peux peut-être vivre les choses en accord avec la loi de Dieu en fait. Il y a les gens dans cette Belgique qui, sans doute, ils ne volent pas. Ils pensent que c'est pas une bonne chose de voler. Ils vont pas mentir. Peut-être ils vivent une vie assez morale. Mais le problème, c'est qu'ils ne le font pas parce qu'ils croient à Dieu. Ils le font pas. Ils le font parce que ça convient pour eux. Et au moment où les choses sont contraires à la loi de Dieu, et ils aiment ça, voilà, ils vont faire leur propre vie, n'est-ce pas? Et c'est là où on voit qu'en fait, ils étaient jamais sous l'autorité de Dieu. Et c'est ça, le péché, n'est-ce pas? Aussi, on vit comme on veut vivre. C'est une vie faite égoïste. Et si Dieu dit quelque chose et ça convient, oui, ça va. Mais dès que Dieu dit autre chose et je n'aime pas, voilà, je fais ma vie. On vit sans autorité. Ça, c'est l'impiété de vivre sans l'autorité de Dieu. Et on a beaucoup de pêcheurs, ce qu'on veut dire, respectables, qui vont vivre ce que la société veut, hein, pour être acceptés dans les yeux du monde, mais pas dans les yeux de Dieu. Alors attention, de croire qu'il y a les bonnes personnes, hein, c'est les gens qui vivent quand même sans l'autorité de Dieu dans la vie. Et quel est le fruit de ce style de vie d'impiété? C'est les convoitises mondaines. Parce que si nos yeux ne sont pas fixés sur celui qui est au ciel, ils sont fixés, n'est-ce pas, sur les choses mondaines. Et on vit cette idée de, on fait ce qu'on veut, en fait. Ce que je désire, voilà. Si je peux, je vais l'avoir. Et c'est ça comme on vit dans le monde, n'est-ce pas? On fait ce qu'on veut, on désire, on cherche à avoir tout ce qui convient pour moi à ma vie. Mes plaisirs, les richesses, voilà. Si je veux travailler toute ma journée, je fais ça, et je fais que ça. On fait ce qu'on veut. Et ici, il dit, en se dépouillant de ces choses-là. On dit non à vivre sans l'autorité de Dieu, et je vis ma vie pour lui. Et après, il dit, en trois mots, les choses positives. La sagesse, qui est l'idée d'être sobre, maîtrise de soi, la justice, la piété, qui dans un sens, ça va avec trois domaines de la vie, n'est-ce pas? La vie intérieure, hein, l'idée de sagesse ou de maîtrise de soi, autodiscipline. Je ne dis pas oui à tout ce que je veux, mais moi, je dis oui à ce que Dieu veut. Et c'est tout à fait différent. Alors, cette idée de vivre selon la sagesse, la justice, comment on vit envers les gens autour de nous, hein, comment je suis en train de vivre au travail, à l'école, à la maison, hein, la justice est ma vie envers Dieu, la piété. Alors, Dieu veut que toute ma vie, dans tous les domaines de ma vie, que ça soit transformé, pour que je ressemble à Jésus-Christ. Et quand est-ce que je dois vivre comme ça? Dans les siècles présents. C'est ça qui est difficile, n'est-ce pas? Hein? Qui est le Dieu de ce siècle présent? La Bible dit c'est le diable. Hein? C'est Dieu petit dé, bien sûr. Et il est sous l'autorité de Dieu même. Mais c'est comme ça qu'il est décrit. Le monde vit pour lui. Le monde est sous son emprise. Hein, c'est comme ça que les gens vivent. Et c'est dans ce monde que je dois vivre cette vie pour le Seigneur. C'est dans ce monde que la grâce est à l'œuvre en moi. Il faut pas chercher les excuses parce que, voilà, dans un monde pareil, c'est très difficile. Oui, c'est difficile, mais on doit quand même continuer, hein, à vivre pour le Seigneur. Et c'est aujourd'hui, ce n'est pas pour demain, dans le siècle présent. C'est l'idée de aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit, il faut prendre la décision dans la vie et chercher à avancer dans la vie de sainteté devant le Seigneur. Et troisièmement, regarder la gloire de Dieu à venir. On attend, ils disent, le mot ici, ils disent, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Alors c'est encore une personne, n'est-ce pas? La grâce qui a été manifestée, la source du salut, c'était une personne, c'est Jésus-Christ qui est venu. Et celui qui va revenir, la gloire de Dieu, c'est encore une personne, c'est Jésus-Christ. Tout est centré autour de la personne, n'est-ce pas, Jésus-Christ, qui est Dieu. Hein? C'est net et clair dans ces versets. Hein? La manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. C'est lui qui va revenir. Et il y a ce jour-là où chaque genou fléchira et chaque langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et l'idée d'attendre en attendant, c'est avec anticipation, comme un enfant qui a... Je crois que les adultes ont perdu cette idée, n'est-ce pas, d'attendre avec anticipation. Ma belle-mère, quand elle avait 70 ans, on avait tout un problème, parce que qu'est-ce qu'on achète pour quelqu'un qui a tout? Elle, il n'y a rien, vraiment. Et si elle veut quelque chose, elle peut l'acheter. Bon, sauf les choses que nous, on ne peut pas acheter parce qu'on n'a pas assez d'argent. Mais si on est comme ça, n'est-ce pas? Moi, j'ai toujours l'argent que mes filles m'ont donné pour les fêtes des pères. Je n'ai pas encore dépensé parce que je n'ai pas encore décidé ce que je vais prendre. En fait, ça, il n'y avait rien qui pressait. Je n'ai pas la même anticipation. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses que vous désirez fortement. Peut-être pour moi, dans la vie, bon, il y a l'ordinateur, peut-être. Je suis un peu informaticien. Alors, premier téléphone portable Android. Alors, j'attendais avec anticipation que ça arrive pour regarder. Une tablette, voilà, moi j'aime bien que ça arrive, alors le courrier arrive. Est-ce que c'est arrivé aujourd'hui, comme ils ont dit, voilà, on est là, on ouvre la boîte, voilà. Je sais pas ce que vous aimez, et ce qui va prendre votre cœur pour voir et dire, voilà, oh, je suis content que ça va arriver aujourd'hui. Ou peut-être quelqu'un de la famille qui est parti loin, qui en Australie ou quelque part, chez nous, ils partent en Australie, en Nouvelle-Zélande. Alors on attend qu'il rentre ce jour-là, on attend avec anticipation, n'est-ce pas? Quand notre fille est partie une année à Bordeaux, alors le jour de rentrée, quand même, c'était quelque chose. On voulait vraiment le revoir, commencer par ça. On attendait son arrivée. Est-ce que nous avons cette attente pour le retour de Jésus-Christ? Est-ce que jamais ça vous prend de se lever, vous lever le matin, et d'ouvrir les rideaux et penser, est-ce aujourd'hui que le Seigneur va revenir? Est-ce qu'on a cette attente dans le cœur? Parce que c'est ça, n'est-ce pas, qu'il demande que ce soit dans notre cœur pour que cette transformation continue, cette vie de sainteté. 1 Jean 3, c'est où on trouve ces paroles, n'est-ce pas, qui nous encouragent. Dans ce sens, 1 Jean 3, verset 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Et c'est ça l'idée, n'est-ce pas? Que, en fait, tout se tourne autour de Jésus-Christ. Hein? Et lui, il est là. On regarde dans le passé, on regarde dans le présent, on regarde vers l'avenir. C'est Jésus-Christ qui est là. La grâce, la gloire de Dieu. Et en mettant Jésus au centre, et en le cœur attaché à lui, c'est comme ça que cette œuvre continue, cette transformation, ce désir d'être semblable à lui, va être là pour qu'on avance dans la vie chrétienne, vers ce but. C'est pas le but du ciel, c'est en fait, n'est-ce pas, le but d'être avec lui et d'être transformé et semblable à lui. Et c'est là, est-ce que vous êtes prêts pour ce jour quand le Seigneur Jésus va revenir et nous serons transformés? Bon, en conclusion, c'est un appel, n'est-ce pas, dans ces versets, à être transformé, à ne pas résister à cet enseignement de la grâce en nous qui forme notre cœur pour ressembler à lui. Et ce qui m'a frappé, c'est, on remarque, n'est-ce pas, la différence entre l'Évangile et les autres religions. Autour de ce monde, en ce moment, il y a les millions de personnes, n'est-ce pas, qui sont en train de jeûner pour un mois pour faire plaisir à leur Dieu. Bon, de s'humilier pour réfléchir, c'est une bonne chose. C'est ça, ça va. On n'est pas contre l'idée de s'humilier pour réfléchir comment nous vivons notre vie. Mais le problème, c'est quand on leur parle, ils vont rapidement parler des bonnes œuvres. Ils le font parce que c'est une bonne œuvre devant Dieu pour leur salut. Et quelle différence, n'est-ce pas, quand on regarde l'Évangile. L'Évangile ne parle pas comme ça, des bonnes œuvres. L'Évangile parle de Jésus-Christ. En mettre Jésus au centre de notre vie, et on passe notre temps à fixer nos yeux sur lui, et c'est à travers cela que Dieu œuvre en nous par son esprit pour, avec le désir de ressembler à Jésus. C'est ça la voie de la sanctification, n'est-ce pas? C'est pas les bonnes œuvres, c'est pas suivre les lois, c'est vouloir être semblable à Jésus-Christ. Et ça coule de cela, n'est-ce pas? Mais il faut que Jésus soit là au centre. Sinon, on perd vraiment la direction de la vie chrétienne. Et on se met en fait soi-même au centre, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'on fait. Alors, si vous êtes chrétien, ce matin, je vous pose la question, est-ce que vous avez besoin de recentrer votre vie sur Jésus-Christ? Comme Paul, dans le livre de Philippiens, il a dit, « Christ est ma vie ». Quelle parole, hein? Christ est ma vie. Alors, peut-être vous avez besoin de vous repentir de certaines choses dans votre vie à ce moment, parce que vous savez que c'est pas quelque chose qui vous rend semblable à Jésus. Je vous encourage quand même de prendre ces décisions et de mettre dans votre vie des principes de passer le temps avec la parole en méditant sur le Seigneur pour que vous avez vraiment Jésus au centre. Mais prendre des décisions. S'il y a des choses qui ne devraient pas être là, prendre des décisions. Repentez-vous. Et je vous encourage même de prendre l'occasion ce matin de parler avec Jacques ou les autres anciens de l'Église ici pour leur parler des situations peut-être que vous savez qu'il faut mettre en règle dans la vie. Mais si vous n'êtes pas chrétien ce matin, bon, vous n'allez rien comprendre en fait de ces choses. Mais regardez cette grâce. En tant qu'ennemi, Dieu envoie son Fils pour mourir à la croix pour vous racheter de vos péchés. Quel amour! Pourquoi refuser un tel amour? Pourquoi remettre une telle décision à un autre jour? Quelle honte! Celui qui me soutient chaque jour, je suis entre ses mains, c'est mon Créateur. J'ose passer encore une journée sans me tourner vers lui, et lui demandant le pardon, et lui demandant de changer ma vie, et lui demandant de m'aider à mettre Jésus au centre, parce qu'il m'a aimé, il est mort pour mes péchés, pour me ramener auprès de lui. Est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que vraiment cette transformation est arrivée dans votre vie? Faites quelque chose ce matin. Vraiment, ce matin. Parce que voilà, le diable aime beaucoup quand on remet les choses, n'est-ce pas, un jour prochain.